Backstage, le podcast, ce sont Margot Delpierre, journaliste radio, et Thomas Langlin, technicien du son. Ils nous font découvrir les coulisses de la création par la voix de ceux qui font la culture. Et vous pouvez retrouver, si vous le souhaitez, l'ensemble de leurs podcasts sur leur site backstagelepodcast.com. Et aujourd'hui, quatrième et dernier épisode de l'entretien consacré à Emmanuel Curtil, comédien de doublage au micro de Margot Delpierre sur un montage de Thomas Langlin, un entretien enregistré en décembre 2018.
Vous gagnez combien si t'es pas indiscret sur, pour un épisode de Friends, par exemple?
Ah, alors pour un épisode de Friends, vous savez, en fait, nous, on est payé au lignage. On est payé à la ligne de texte qu'on dit. Donc, plus on a de lignes, mieux on est payé. Et voilà, moins on en a et plus le cachet est petit. Et en l'occurrence, Friends, on avait l'impression de parler beaucoup parce que tout le monde parlait en même temps. Mais il y avait beaucoup de personnages. Il y avait déjà 6 permanents, plus les guests récurrents, les guests pas récurrents. Enfin, on avait... moi, j'avais à peu près entre 25 et 40 lignes par épisode. À l'époque, c'était en francs. On touchait à peu près, pour 2 épisodes, entre 2 et 3 000 francs. Pour 2 épisodes qui sont diffusés chaque année, qui sont vendus en DVD, exploités, et qui sont toujours diffusés maintenant, d'ailleurs. Ça fait très longtemps qu'on a arrêté le doublage de la série. Ça continue d'être diffusé sur Netflix, sur plein de chaînes.
Et là-dessus, vous ne touchez rien?
Jamais.
Les DVD, les
Jamais.
Autres diffusions, rien?
Jamais. Ça a fait d'ailleurs l'objet d'une grève qui a fait beaucoup de mal à beaucoup de comédiens. Dans 94, on s'est mis en grève pour obtenir des droits de suite, des droits de d'utilisation secondaire, qu'on n'a pas vraiment obtenu d'ailleurs. On a juste obtenu la possibilité d'un rachat de droits, en fait, d'une cession de droits. Voilà, et on en est là. Du coup, effectivement, les rediffusions, ça coûte pas cher aux chaînes.
Donc il y a quand même encore un manque de reconnaissance. Il y a du travail.
Un manque de reconnaissance, oui, enfin, c'est-à-dire que c'est toujours un petit peu... c'est un peu scandaleux que les gens aient la possibilité d'exploiter notre travail comme ils le veulent, sans qu'on nous demande notre avis, sans que... Bon, alors maintenant, on nous demande notre avis, c'est-à-dire qu'on nous dit, ben voilà, on vous paye tant de pourcentage de votre cachet pour 50 ans de diffusion. Et vous la fermez pendant 50 ans. Et puis alors, dans 50 ans, on sera mort, donc on pourra évidemment pas réclamer nos droits.
Vous parliez d'une forme d'exclusivité, parce que votre voix était trop identifiable, je parle pour celle de Chandler dans Friends. C'est le paradoxe, c'est ça, quand on commence à être connu dans le doublage et qu'on associé.
Je dirais d'ailleurs que c'est la seule branche de ce métier, du métier artistique en général, mais même du métier de comédien, dans laquelle on se dit, bah non, on va pas le prendre parce qu'on l'entend trop. On va pas le faire travailler parce qu'il est trop bon. On dit jamais ça d'un musicien, je veux dire. On dit pas, on va pas prendre Yehudi Menuhin parce qu'on l'a trop entendu. Vous voyez,
ou d'un
c'est
acteur.
Même d'ailleurs la raison pour laquelle on le prend, c'est que si on l'entend beaucoup, c'est qu'en principe c'est qu'il a plutôt des qualités. Donc on voilà, ou un acteur français dans un ou, enfin ou étranger, mais enfin ou, à l'image, on va pas dire on prend pas Depardieu parce qu'on l'a trop vu. Non, c'est mais c'est vrai que dans le doublage, on dit bah non, non pas lui, on l'entend trop. Voilà quoi. C'est paradoxal. C'est vrai que c'est une des rares branches de ce métier que je connaisse où on reprend pas les gens parce qu'ils sont bons.
Parce qu'on a peur que les gens se lassent?
Non, mais c'est bon. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des excès il y a longtemps. Quand j'ai commencé le doublage, il n'y avait pas ce souci de changer de voix d'un comédien à un autre. Donc, moi, j'ai fait des trucs, je travaillais énormément et tous les héros de toutes les séries et des films avaient la même voix, c'était la mienne. Donc c'est vrai que c'était un peu excessif. Maintenant, c'est vrai que je comprends qu'on n'ait pas envie que la voix française de Jim Carrey soit la même qu'un autre acteur qui a un peu le même emploi que Jim Carrey, que ça fasse doublon. Je trouve ça un petit peu excessif parce que du coup, on a tendance à vouloir un peu changer systématiquement. Puis en plus, c'est vrai que c'est beaucoup les chaînes, les clients, les hein, ou les DA qui veulent changer de voix. Je vais pas me faire des amis là. Mais en fait, le public principalement Il y a des gens que ça gêne, mais principalement, ils s'en foutent. Et d'ailleurs, le public, ce qu'il veut, c'est que ce soit bien doublé et que la série ou le film soit aussi drôle en anglais qu'en français ou aussi triste, enfin aussi provoque les mêmes émotions, que la voix de machin soit la même que truc, ils s'en tapent. Si le doublage est bien fait, on oublie ça. Et d'ailleurs, parfois, souvent d'ailleurs, ça les amuse de reconnaître une voix d'un film à l'autre ou d'un comédien à un autre, quoi.
Vous, en tout cas, vous vous lassez jamais de votre métier?
Moi, non. J'ai la chance de le faire dans de très bonnes conditions, mais jusque-là, tout va bien.
Et sur quoi vous travaillez en ce moment?
En ce moment, je viens de finir la série donc, avec Jim Carrey, là, pour Canal, qui est une série excellente. Il y a une saison 2, je crois, annoncée. Je double une série de dessins animés qui s'appelle... C'est Mr. Magoo, qui est un personnage assez connu, qui était doublé par Roger Carrel, d'ailleurs, il y a très longtemps, à l'origine. Et là, ils ont fait une nouvelle série, donc c'est très drôle. Je fais Magoo. Voilà, et puis d'autres trucs, divers et variés, des téléfilms, voilà.
Moi, je sais que j'aime pas trop me réécouter. Vous en avez jamais marre de vous entendre?
Je passe pas mes journées devant la télévision à écouter ce que j'ai fait. Hein. J'en connais qui le font, mais moi, c'est... Non, je vais pas voir les... D'abord, je vais voir les films... Quand je vais voir un film au cinéma, je vais le voir en VO sous-titré, donc je suis pas un très bon client du doublage. Et une série, non, si j'aime bien regarder les séries en français, mais je suis pas...
Pas Friends.
Ça me dérange pas, hein, parce que effectivement, à force de... De toute façon, quand on fait ce métier, on écoute la scène en français, on enregistre, et puis après, on écoute ce qu'on a fait quand même. Donc, j'ai l'habitude de m'écouter, d'écouter ma voix. Je fais pas, comme la plupart des gens, une espèce de rejet de ma voix. Sinon, ce serait compliqué. Hein. Mais je me mets pas devant mon poste de télé pour écouter les épisodes d'une série que j'ai doublée, quoi. Par égocentrisme.
On parlait de la VO et de la VF tout à l'heure. Quand même, je trouve que les gens se mettent de plus en plus à regarder en VO.
Oui, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que...
C'est pas la fin de votre métier, quand même.
Je pense qu'on a quelques belles années encore à vivre, j'espère, en tout cas, mais c'est... Après, c'est vrai que les gens qui regardent en VO, c'est un certain type de public. Quand même, le plus gros du public regarde en VF. Hein. Même maintenant, on a le choix sur les plateformes Netflix ou même sur les chaînes classiques de choisir sa langue, le sous-titrage. Mais c'est bien, ça veut dire que les gens parlent de mieux en mieux anglais, ce qui est un petit peu notre défaut en France.
Après, il y a vraiment des fois presque des liens affectifs avec certains films, dessins animés, séries qui font que... moi, par exemple, il y a des choses que je ne peux pas regarder en VO.
Oui.
C'est presque psychologique, mais une fois qu'on est attaché d'entendre...
Il y a des voix, c'est des rencontres entre les comédiens et leur voix française. C'est un exemple qui revient très souvent, mais Bruce Willis, Patrick Poivet, sur Bruce Willis, c'est... Je pense que la plupart des gens ne peuvent pas regarder Bruce Willis en VO parce que il a apporté une telle identité, un tel charme, un tel humour qui existe moins en anglais qu'en français d'ailleurs, une espèce de désinvolture dans la façon de jouer qui maintenant est totalement indissociable, quoi. D'abord dans Clair de Lune, et puis c'est vrai qu'il l'a suivi jusqu'à maintenant, et je trouve que ça fait partie vraiment de la raison de voir un film avec Bruce Willis en français, quoi.
Aujourd'hui, ils sont indissociables.
Je trouve, c'est vrai que les rares fois où on a décidé de changer la voix de Patrick, les gens sont déçus, voilà.
Mais c'est drôle comme c'est lié à l'affect, je trouve,
oui.
Le doublage.
Mais parce que la voix, c'est une... Puis, je sais pas, le timbre de voix, la voix, c'est quelque chose d'intime, vraiment qui touche l'émotion, l'âme des gens. Enfin, donc, c'est un lien qui est immédiat et émotionnel.
Est-ce qu'on vous reconnaît à votre voix?
Moi, j'ai pas un timbre de voix très spécifique. Ça peut arriver, ça arrive, hein, mais ça m'arrive moins souvent qu'à Céline Montsara, qui double Julia Roberts, par exemple, qui a vraiment un timbre de voix très spécifique, qui est génial d'ailleurs. Elle, on la reconnaît très souvent Voilà, Patrick, il a un, pareil pour Bruce Willis, il a un timbre de... Moi, je, en plus, je double des acteurs qui sont très différents, qui ont des façons de jouer très différentes. Jim Carrey joue pas de la même manière que Kyle Chandler ou Matthew Perry ou Sacha Baron Cohen. Ou... Et donc, je sens que ça interpelle les gens, mais je sens qu'ils ils sont un petit peu déroutés, mais je pense qu'ils n'arrivent pas à trouver des...
Ils cherchent.
À dire des mots sur ce qu'ils ressentent, en fait. Mais non, mais c'est vrai que c'est une partie du métier qui est encore assez mystérieuse. C'est pas très, c'est pas si connu que, même si c'est très médiatisé de plus en plus, mais c'est pas si connu que ça, en fait, et ça suscite un certain mystère, quoi.
Et ça vous plaît, ça, cette part de mystère?
Oui, mais je trouve que c'est vraiment pour le coup, ça fait vraiment partie de la magie du cinéma, quoi. Moi, quand j'ai commencé dans le doublage, je me suis retrouvé dans des studios, en plus on voit pas les gens parce que c'est mon travail dans le noir, et que j'entendais des voix que j'avais l'habitude d'entendre à la télé ou au cinéma. J'ai entendu la voix d'Eddie Murphy en français, j'étais mais comme un fou. Pour moi, c'était vraiment, c'était magique. Et quand j'ai vu qui c'était, j'ai vu donc l'envers du décor, j'ai trouvé ça encore plus magique, quoi.
Ça vous plaît de travailler dans l'ombre, même si aujourd'hui vous êtes reconnu pour votre travail de doublage?
Ça me déplaît pas. Avec l'âge, en fait, je cherche de moins en moins la notoriété, en fait. C'est quelque chose qui pouvait éventuellement me faire fantasmer quand j'étais gamin, mais comme beaucoup hein, de gens qui font ce métier, on le fait aussi pour être connu, pour avoir une reconnaissance du public. Non, je suis très content quand les gens manifestent du plaisir à m'écouter, mais je cherche pas la reconnaissance, la notoriété à tout prix, quoi.
Merci.
Merci.
Backstage, un podcast présenté par Margot Delpierre.
Merci encore à Emmanuel Curtil, invité de Backstage, un podcast monté et mixé par le Grinch de cette émission, Thomas Langlin.